Sherlock Holmes triomphe. Conan Doyle. Traduit par Henri Lévy. La seconde tâche. J'avais l'intention bien arrêtée que l'aventure de l'abbaye de Grange fût le dernier des exploits de M. Sherlock Holmes que je communiquerais au public. Ce n'est pas le défaut de matériaux qui m'avait dicté cette résolution, car je possède des notes relatives à plusieurs centaines d'affaires auxquelles je n'ai jamais fait allusion. Je ne craignais pas davantage de lasser l'intérêt de mes lecteurs en leur faisant connaître le caractère surprenant et les méthodes uniques de ce personnage si remarquable. Le véritable motif était que M. Holmes éprouvait une invincible répugnance à voir se continuer la publication de ses expériences. Tant qu'il exerçait sa profession, la renommée de ses succès pouvait avoir pour lui quelques valeurs pratiques. Mais depuis qu'il a définitivement quitté Londres pour habiter les dunes du Sussex, où il se livre à ses études et à l'apiculture, toute réclame est devenue particulièrement désagréable. Il m'a donc prié de considérer désormais, à ce sujet, ses désirs comme des ordres. Cependant, après lui avoir affirmé que j'avais promis de raconter l'aventure de la seconde tâche quand le moment serait venu, et lui avoir fait comprendre qu'il était indispensable que cette longue série de récits fût terminée par l'épisode soulevant la question internationale, la plus importante dont il eut jamais à s'occuper, j'arrivais enfin à lui arracher son consentement, à la condition, toutefois, de prendre toutes les précautions afin d'éviter que les personnages réels fussent découverts. Si au cours de ce récit je reste parfois dans le vague, le public comprendra maintenant parfaitement la cause de mes réticences. Ce fut donc un mardi matin de l'automne, d'une année dont je ne préciserai pas même la décade, que nous reçûmes dans notre humble appartement de Baker Street la visite de deux personnages dont la renommée était européenne. Le premier, au visage austère, au nez proéminent, au regard d'aigle, à l'aspect dominateur, n'était autre que l'illustre Lord Bellinger, deux fois déjà Premier ministre de la Grande-Bretagne. L'autre, aux cheveux bruns, au visage expressif, à la tenue élégante, encore jeune, paraissant doué de toutes les beautés du corps et de l'esprit, était le très honorable Trelawney Hope, secrétaire d'État pour les affaires européennes et l'homme politique qui donnait les plus belles espérances pour l'avenir. Ils s'assirent côte à côte sur notre canapé, encombré de papiers, et il fut facile, en voyant l'inquiétude et l'anxiété peintes sur leurs traits, de se rendre compte que c'était une affaire de la plus haute importance qui les avait amenés vers nous. Les mains maigres et sillonnées de veines bleues du Premier ministre se contractaient sur la pomme d'ivoire de son parapluie, et son visage ascétique se tournait tour à tour vers Holmes et moi-même. Le secrétaire d'État tordait nerveusement sa moustache d'une main et de l'autre jouait avec les breloques de sa chaîne de montre. « Quand je me suis aperçu de cette perte, monsieur Holmes, il était 8 heures ce matin et j'ai aussitôt prévenu le Premier ministre. C'est lui qui m'a suggéré l'idée de venir vous trouver. En avez-vous informé la police ?»« Non, monsieur, dit le Premier ministre avec sa vivacité bien connue. Nous ne l'avons pas fait et il est impossible de s'adresser à elle. » Car ce serait rendre la chose publique, et voilà ce que nous désirons particulièrement vivement éviter. Et pourquoi donc? Parce que le document en question a une telle importance que sa publication pourrait facilement, je dirais même selon toute probabilité, amener les complications européennes les plus graves. C'est là, voyez-vous, une question de paix ou de guerre. Si l'on n'arrive pas à le découvrir avec le plus grand secret, il vaut mieux ne pas le retrouver, car le but que poursuivent ceux qui s'en sont emparés, c'est d'en publier le contenu. Je comprends, et maintenant, monsieur Trelawney Hope, je vous serais très obligé si vous vouliez bien me faire connaître très exactement les circonstances dans lesquelles ce document a disparu. Je le ferai en très peu de mots, monsieur Holmes. La lettre, car c'est une lettre d'un chef d'État étranger, a été reçue par nous il y a 6 jours. Je la trouvais tellement précieuse que je n'osais même pas la laisser dans mon coffre-fort et que tous les soirs je la rapportais à mon domicile, à Whitehall Terrace, où je l'enfermais dans un coffret fermé à clé, placé dans ma chambre à coucher. Elle s'y trouvait encore hier au soir, j'en suis absolument certain, car en m'habillant pour le dîner, j'ai ouvert le coffret et le document était à l'intérieur. Ce matin, il avait disparu. Le coffret resta posé toute la nuit à côté de la glace, sur la coiffeuse de ma chambre. J'ai le sommeil très léger, ainsi que ma femme, et nous pouvons jurer que personne n'a pénétré dans notre chambre pendant la nuit. Et pourtant, je ne puis que vous le répéter, le document a disparu. À quelle heure avez-vous dîné ?
À 7h30.
Combien de temps s'est-il passé avant votre coucher ?
Ma femme était allée au théâtre et je l'avais attendue. Il était 11h30 quand nous sommes montés dans notre chambre.
Le coffret est donc resté 4 heures sans être surveillé.
Personne ne s'est jamais permis d'entrer dans cette pièce. À part la femme de chambre qui y va le matin, mon valet et la femme de chambre de ma femme qui peuvent y pénétrer le reste de la journée. Ce sont deux domestiques dans lesquels j'ai la plus entière confiance et qui sont à notre service depuis fort longtemps. De plus, ni l'un ni l'autre ne pouvaient soupçonner qu'il y avait dans ce coffret